Bienvenue sur le podcast Portrait de génie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du trompettiste de jazz Miles Davis. Alors, Miles Davis est né le 26 mai 1926 à Alton, dans l'Illinois, et il est mort le 28 septembre 1991 à l'âge de 65 ans à Santa Monica. Alors, Miles Davis était un compositeur de jazz, un compositeur de musique de film, un acteur, un chef d'orchestre et donc, bien sûr, un trompettiste. Alors, Miles Davis commence à jouer de la trompette à l'âge de 13 ans. Il s'est caractérisé par sa capacité à découvrir et à s'entourer de nouveaux talents. Il a joué avec quasiment tous les plus grands noms du jazz de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, il a grandi dans un milieu familial plutôt assez riche. Son père était chirurgien-dentiste et mélomane, et sa mère jouait du violon et du piano. Sa grand-mère maternelle était également professeure d'orgue. Sa sœur aînée, Dorothy, et son frère cadet, Vernon, étudiaient également la musique. Pendant sa scolarité, il fait une première expérience douloureuse avec le racisme. Il se passionne également pour le sport, baseball, basketball, natation, et surtout la boxe, et bien évidemment, la musique. Alors en 1939, alors qu'il est au collège, il prend des cours de trompette avec Elwood Buchanan, qui est un ami de son père, qui va l'aider à développer les fondements de son style et qui l'encourage à jouer sans vibrato. Et l'initie aux jeux de trompettistes comme Bobby Hackett ou Harold Becker, qui sont caractérisés par une sobriété, une douceur et un certain lyrisme. En 1942, lorsqu'il est âgé de 16 ans, il fait la connaissance d'Irene Burst, sa première véritable petite amie, et dont il aura trois enfants. Elle lui conseille d'appeler Eddie Randall pour se faire engager dans son orchestre de rhythm and blues, les Blue Devils. Et à la suite de l'audition, il est engagé comme trompettiste. C'est à cette époque qu'il développe une grande partie de sa théorie musicale. Les Blue Devils commencent à jouer dans de nombreux endroits, avec un répertoire reprenant du Duke Ellington, Lionel Hampton ou Benny Goodman. Et il commence à jouer avec des musiciens célèbres comme Roy Eldridge, Kenny Dorham, Benny Carter et surtout Lester Young, qui est une idole des saxophonistes et l'un des modèles de Miles. À cette époque, il hésite entre rejoindre la faculté de chirurgie dentaire ou suivre Clark Terry dans l'orchestre de l'US Navy. On voit qu'il est pris dans des doutes sur la carrière à mener. À cette époque, le big band de Billy Eckstein vient jouer dans un club de Saint-Louis. C'est un big band qui réunit deux créateurs et célèbres musiciens du genre, le trompettiste Dizzy Gillespie et le saxophoniste Charlie Parker. Coup de chance, Dizzy Gillespie vient trouver Miles Davis dans la salle pour lui demander de les rejoindre sur scène pour remplacer un trompettiste défaillant. Et à la suite de cette rencontre, Miles prendra une décision essentielle, il rejoindra le groupe à New York. Grâce au soutien de son père, il s'inscrit en 1944 à la célèbre école de musique Juilliard de New York, dont l'enseignement malheureusement l'ennuiera assez rapidement. Après avoir retrouvé Dizzy Gillespie et Charlie Parker, il fait la connaissance de l'immense pianiste Thelonious Monk. En parallèle, il apprend le piano et s'initie aux compositeurs contemporains comme Prokofiev. Il se met à jouer dans de nombreuses jam sessions de la nuit new-yorkaise. Et c'est à ce moment-là qu'il accompagne Billie Holiday. En 1945, il commence à enregistrer dans des studios. Et en octobre de la même année, il intègre le quintet de Charlie Parker, remplaçant Dizzy Gillespie qui a quitté le groupe. En 1946, le magazine Esquire le proclame nouvelle star de la trompette jazz, qui est une de ses premières consécrations. Il enregistre enfin sa première composition, le standard Donnelly, qui attirera l'attention du célèbre arrangeur Gil Evans. Malheureusement, à cette époque, il découvre au sein du groupe de Charlie Parker la toxicomanie, avec malheureusement une drogue qui fait beaucoup de ravages, à savoir l'héroïne. En 1948, avec la collaboration de Gil Evans, il crée un groupe avec de nombreux musiciens. Ils feront la première partie de Count Basie au Royal Roost de New York. Il refuse à cette époque de rejoindre le groupe de Duke Ellington. Il continue d'enregistrer ses compositions avec son nouveau groupe, ce qui donne naissance au Cool Jazz. En 1949, il se met à voyager, notamment à Paris, où il y rencontre un certain nombre d'intellectuels et d'artistes de l'époque, comme Jean-Paul Sartre, Boris Vian, Pablo Picasso et surtout Juliette Gréco. Ils seront très amoureux et il hésitera même à l'épouser. Il revient aux États-Unis et il se sépare de Juliette Gréco. Cette nouvelle le replonge dans l'héroïne. S'ensuit une époque tumultueuse où, pour financer ses injections d'héroïne, il exerce comme proxénète sur des femmes, ce qui lui vaudra une descente de police et quelques jours de prison à Los Angeles. Après cela, il continue à enregistrer avec de nombreux artistes, toujours Charlie Parker. Il l'enregistre avec les chanteuses Sarah Vaughan et Billie Holiday, Jackie McLean, Philly Joe Jones et le saxophoniste Sonny Rollins. Il fait également la connaissance d'un jeune saxophoniste à cette époque, John Coltrane, avec qui il joue brièvement à Manhattan. Après avoir lutté contre son addiction à l'héroïne, il crée un nouveau sextet avec le batteur Kenny Clarke et le pianiste Horace Silver et se met à enregistrer de nouveaux titres, qui est un petit peu une réaction contre le cool jazz, qui était un peu son style précédent, et se met à jouer du hard bop, donc un style un petit peu plus énergique et plus simple harmoniquement que le bebop. C'est à cette époque que son génie éclot. Au Newport Jazz Festival en 1955, l'interprétation de Miles Davis de Round Midnight, un thème de Thelonious Monk, est saluée par une standing ovation doublée d'un immense succès critique. On voit que sa carrière de trompettiste est relancée, le faisant passer de bon trompettiste à jazzman de génie. Après la mort de Charlie Parker en 1955, il fonde un nouveau groupe, avec John Coltrane au saxophone ténor, Red Garland au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Philly Joe Jones à la batterie. Le label Columbia Records, qui est à l'époque une des plus importantes maisons de disques des États-Unis, leur offrira un contrat en or avec des efforts de publicité jamais vus dans le jazz. Il enregistrera à l'époque 5 albums, et en 1957, quand le groupe sort l'album Round About Midnight, il y aura un succès commercial certain. À cette époque, le succès commercial de ses albums lui apporte un certain confort matériel, mais également des ennuis de santé avec l'ablation chirurgicale de nodules sur ses cordes vocales qui l'oblige à s'arrêter quelque temps. L'ambiance au sein de son groupe commence à devenir compliquée, il supporte mal la toxicomanie de John Coltrane, qu'il renvoie. S'en suivra de nombreux enregistrements, et notamment la composition de la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle en 1957. 1958, il enregistre l'album Milestone. Le quintet devient alors un sextet avec l'apparition de Cannonball Adderley au saxophone alto et le retour de John Coltrane. Cet album posera les fondations du jazz modal. Le jazz modal s'inspire des idées des musiques orientales et exotiques. On y trouve généralement 3 ou 4 accords, rarement plus, qui permet à l'improvisateur une extraordinaire liberté d'expression. Et l'ajout de modes empruntés aux musiques religieuses médiévales, dites musiques ecclésiastiques, avec différents modes grecs, donc ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien et locrien, ce qui en fait la musique modale par opposition à la musique tonale. Entre-temps, il poursuit sa collaboration avec Gil Evans, où s'en suivront plusieurs albums orchestraux comme Miles Ahead, Porgy and Bess et Sketches of Pain. En 1959, il signe son chef-d'œuvre Kind of Blue, qui est un album improvisé autour de trames qu'il a composées. Les années 60 lui amènent de nombreuses tournées en Europe, avec John Coltrane, Wynton Kelly au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Jimmy Cobb à la batterie. Son quintet évoluera avec de nouveaux musiciens. Il y rencontrera notamment Herbie Hancock, le contrebassiste Ron Carter et le batteur Tony Williams. En 1964, le saxophoniste Wayne Shorter rejoint le groupe. Cette nouvelle garde de musiciens le pousse à renouveler ses idées et à se remettre en question. En octobre 66, le groupe enregistre un chef-d'œuvre, l'album Miles Smiles. En 1968, il prend un nouveau virage et fusionnant un son électrique provenant du rock avec le jazz, c'est lui qui clairement invente le jazz fusion ou dit jazz rock, et rencontre de nouveaux musiciens comme John McLaughlin, le guitariste, ou le claviériste Joe Zawinul. S'en suivront deux albums majeurs, In a Silent Way en 69 et Beaches Brew en 1970. Côté vie personnelle, il rencontra en 1967 la chanteuse Betty Davis, qui deviendra sa seconde épouse. Dans les années 70, il continuera de faire évoluer son style en découvrant de nouveaux musiciens qui s'avéreront être de géniaux instrumentistes comme Chick Corea ou Keith Jarrett pour le piano, Dave Holland à la basse, Jack DeJohnette pour la batterie. Dans les années 80, il continuera de faire évoluer son style jazz fusion en ajoutant notamment des éléments de funk. Il rencontrera aussi encore de nouveaux musiciens comme Marcus Miller, John Scofield, Mike Stern. En 1986, il enregistre l'album Tutu, qui est un de ses plus grands succès commerciaux. À la fin des années 80, Davis collabore également avec Prince, même si aujourd'hui aucun enregistrement studio n'a émergé de ses sessions. Dans son dernier album, sorti en 1992, de manière posthume, on verra le musicien collaborer avec des musiciens de hip-hop et s'ouvrir à de nouvelles musiques comme il l'a fait tout au long de sa carrière. Il aura eu une vie passionnante d'un point de vue musical, d'un point de vue créatif, où il aura clairement inventé de nouveaux styles de jazz. Côté vie personnelle, il aura eu plusieurs amours, comme Juliette Gréco, que j'ai évoqué précédemment. En 1959, il épousa une danseuse américaine, Frances Taylor, dont il divorça quelques années après. Et il rencontra Betty Davis, donc en 67, et dont il dira qu'elle a eu une certaine influence sur sa musique. En 1981, il épousa l'actrice Cicely Tyson, dont il divorcera après 8 ans de vie commune. Entre-temps, Miles Davis aura eu 4 enfants. Comme le musicien était extrêmement prolifique, sa discographie est très dense. Dans mes recommandations, il y a bien évidemment le chef-d'œuvre absolu Kind of Blue que je vous recommande. Je vous recommande également d'écouter sa période jazz fusion avec In a Silent Way ou Beaches Brew. Vous pouvez également jeter une oreille sur Ascenseur pour l'échafaud, qui est clairement un de ses chefs-d'œuvre. Vous pouvez aussi écouter l'intégralité de sa discographie. On y découvre à chaque fois des bijoux d'improvisation. On y découvre vraiment le style de ce musicien qui a clairement marqué l'histoire de la musique de la deuxième partie du XXe siècle. Je vais terminer, comme à mon habitude, par quelques citations du musicien. La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. Ou encore, pourquoi jouer tant de notes alors qu'il suffit de jouer les meilleures? Et également, n'ayez pas peur des fausses notes, ça n'existe pas.